Dis papa, pourquoi on doit pas mettre les coudes sur la table?
Elle a quel âge, notre dindonne?
C'est très bon, les portugaises bien grasses aussi, mais pourquoi pas aussi un plat de moule?
Qu'est-ce qu'on boit avec tout ça?
Plus sec, hein?
Mais si on repassait à la recette de notre dindonne?
Vous pouvez utiliser aussi un dé à coudre, car vous allez enlever les yeux et la langue.
Et puis je pense qu'on va sauter le fromage.
Les coudes sur la table, l'émission gourmande et pleine de saveurs de Radio Campus Paris.
Tout Parisien qui se respecte connaît de près ou de loin le vignoble de la butte Montmartre et la fête des vendanges du Château Charonne, organisée chaque second week-end de septembre rue Léon Frot par le bistrot Mélac. Une joyeuse kermesse qui, en fin de journée, tourne en vaste beuverie où l'on foule aux pieds dans de grandes bassines les raisins qui ont mûri sous le soleil parisien, ardent comme on le sait. Plantée il y a presque 40 ans, la vigne là-bas est montée se réfugier au-dessus de l'enseigne du bistrot et donne chaque année quelques dizaines de bouteilles. Du 100% Baco, c'est le nom du cépage, du 100% Baco donc sur un délicieux terroir du quartier de Charonne. Mais qui a déjà goûté ici une cuvée de Château Charonne? Personne. Et qui a goûté les vins de Montmartre? Eh bien pas grand monde. Car tout ceci reste évidemment anecdotique et l'on aurait tendance à dire que le vin parisien est anecdotique. Mais qui sait, avec le réchauffement climatique, ou les changements climatiques, les grandes maisons champenoises investissent en Angleterre et ailleurs. Alors, le vin parisien, lui, pourrait-il renaître? Combien l'Île-de-France compte-t-elle de micro-vignobles? Combien sont les vignerons amateurs qui font vinifier leur récolte dans des coopératives? Existe-t-il tout simplement de bons vins franciliens? Et quelle est l'histoire de notre région viticole? Quel sera son futur? Voici les questions que se posera l'équipe d'Écoute sur la table ce soir. Et puisque nous sommes évidemment à Radio Campus Paris en phase avec l'actualité de notre chère capitale, on s'intéressera également aux diverses initiatives de Parisiens fous de vin et parfois aussi un peu fous de business.
À Radio Campus Paris, on met les coudes sur la table.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris dans un tout nouveau et superbe lieu. Nous ne sommes pas, comme la tradition le veut, au Cave de Prague, mais au Sourire, au pied de l'échelle. C'est le nom d'un nouveau caviste du quartier de Voltaire, au 106 rue de la Roquette. Nouveau, pas tant que ça, car c'est en fait le très sympathique bar des Marcheurs de Planète, où l'on boit très bien, qui est juste à côté d'ailleurs, qui a ouvert ce second espace. Alors Yann Diolojan, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je te laisse dire un mot au sujet de ce lieu. Et tout d'abord, je te remercie de nous accueillir ici. C'est un vrai plaisir, c'est un très bel endroit, j'ai déjà dit. Alors, parle-nous en quelques mots du sourire au pied de l'échelle, car puisque le sujet du jour est le vin et Paris, la moindre des choses, c'est de donner la parole aux cavistes qui se battent pour que les Parisiens se désaltèrent un peu mieux.
Merci Louis. Eh ben, bienvenue au sourire au pied de l'échelle. Caviste, mais pas que. Nous sommes autour d'une table au milieu de la cave, un lieu du vin, c'est-à-dire un lieu où on puisse se poser des questions et où on puisse déguster et un lieu où on puisse être honnête vis-à-vis de ce qu'on ressent par rapport à ce qu'on a dans le verre. Donc je te remercie de venir faire cette émission ici parce que c'est carrément ce qu'on va faire ce soir sur le sujet.
Et alors en deux mots, les vignerons que tu défends, ce sont lesquels?
Ce sont des artisans. Je pense que la taille, ça compte. Je pense que cuisiner 30 pour 30 couverts chaque soir, ce n'est pas la même chose que de cuisiner pour 250.
Oui, parce qu'on précise que tu fais aussi la cuisine au Marcheur de Planète, qui est le cousin de cette cave dans laquelle on est ce soir.
Exactement. Et donc, du coup, vinifier 4 à 8 hectares, ce n'est pas la même chose que de vinifier 200. C'est-à-dire que les moyens techniques ne peuvent pas être les mêmes. Je suis assez sensible et touché par le travail des vignerons, les vignerons qui ont un cap, c'est-à-dire... La base, c'est la viticulture, une viticulture propre, c'est-à-dire sans produits de synthèse, pour ne pas citer de marque.
Ouais.
Et vinification peu d'intrants, intrants si nécessaire, mais peu d'intrants, et surtout des vins irréprochables au niveau de... On peut pas se faire mal au niveau de la santé, quoi.
Bon. On va essayer de ne pas se faire mal. En tout cas, je précise également que tu nous as concocté aussi une petite chronique pour nous apprendre un truc un peu marrant, c'est qu'on peut être champenois et avoir quelques parcelles de vignes en Île-de-France, c'est ça?
Exact.
Tu nous
Affaire à suivre,
tu nous en diras plus tout à l'heure. Alors, je passe désormais à nos invités du jour, Patrice Bersac. Oui, en parlant dans le micro. Bonsoir, vous êtes le président des vignerons franciliens. Vous vous occupez donc de la promotion, de la défense et de la gestion de la viticulture professionnelle francilienne et de la viticulture patrimoniale en France. Alors, qu'est-ce que c'est la viticulture patrimoniale?
La viticulture patrimoniale, c'est une viticulture d'amateurs
souvent assistés par des collectivités territoriales qui les soutiennent. C'est une viticulture que la Commission européenne nomme comme viticulture de consommation familiale. Et avec ces vignes, lorsqu'elles sont d'un bon niveau technique, lorsque les chais sont bien équipés et lorsque les vignerons amateurs travaillent bien, donnent des vins sympathiques que l'on peut présenter au public. On y mène des activités pédagogiques avec des enfants, avec des adultes. On peut même y faire du tourisme. Nous avons eu le cas de vignes où nous avons amené des Japonais, des Chinois. Donc, leur caractéristique de ces vignes patrimoniales, c'est d'être pédagogique, culturel et touristique.
Alors, pédagogique, pédagogue, on va essayer de l'être ce soir. Alors, je précise simplement que vous avez vinifié votre toute première cuvée en octobre 1993. C'était au 18 rue de Reuilly, dans le 12e arrondissement, donc tout juste à côté de Voltaire, là où on est ce soir. On parlera des vignes citadines. Il y a plein de choses à dire. C'est assez réjouissant. Emmanuel Montaud, bonsoir. Vous coupez une tranche de saucisson, prenez votre micro. Vous êtes conseiller viticole pour de nombreuses communes de l'Île-de-France. Pour faire plus simple, vous êtes vigneron. D'ailleurs, vous étiez en train de tailler la vigne ce matin même. Vous étiez où ?
Ah, bonjour à tous. Déjà, je vous remercie de l'invitation. Donc, ce matin, nous étions à Ony, pas loin de Cergy-Pontoise, pour donc tailler la vigne en fonction des lunes. Puisqu'aujourd'hui, les lunes sont changées. Nous sommes en lune montante et croissante. Et voilà, la période s'y prêtait. Sachant que ce week-end, il y a un nœud lunaire. Et donc, ce n'était pas forcément la bonne période pour tailler. Avec justement une association qui sont plus disponibles normalement le week-end. Et voilà, ça tombait mal. Donc, nous avons dû avancer un petit peu la date de la taille.
Donc là, vous nous parlez de biodynamie, si j'ai bien compris.
Là, on parle un peu de biodynamie. Mais on essaie quand même en tout cas, certaines pratiques de rentrer, en effet, un petit peu dans la biodynamie. Pas bon. Tout, mais...
C'est un bon départ, on en reparlera tout à l'heure. Je précise donc que vous vous occupez de tout, du parcours de la vigne jusqu'à la bouteille, en passant donc par les vinifications. Et Fabrice m'a dit que vous arriviez à faire aussi partir tout ça en levure indigène, mais si vous êtes biodynamiste dans l'âme, on n'en doute pas. On reparle de tous ces aspects techniques tout à l'heure. Notre troisième invité est à ma gauche, Jean-Hugues Bretin. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes le créateur de l'application Raisin, dont le but est de localiser à Paris et ailleurs les restaurants et caves qui possèdent au moins 30% de vin naturel dans leur carte. Je parlais plutôt des initiatives de Parisiens. Alors, cette application, elle définit parfaitement le nouvel engouement de notre génération, des trentenaires, des gens de 40 ans, ou moins d'ailleurs, de 20 ans, et des jeunes Parisiens, bref, qui s'intéressent au vin propre et au vin naturel. Je précise aussi qu'avec votre application, on peut prendre en photo, justement, les bouteilles. C'est une espèce de communauté, une Facebook du vin naturel, c'est ça ?
Oui, alors c'est un peu ça. En fait, l'idée, c'est vraiment de permettre aux gens qui n'y connaissent pas grand-chose au vin, comme c'était mon cas il y a peu de temps, jusqu'en 2010, de facilement pouvoir savoir où ils peuvent trouver ce type de vin et qui font ces vins-là aussi.
Stan Kress, donc, pour le dernier album du groupe de Touareg, dont on vous recommande l'écoute, tout simplement. Alors, je parle comme ça, puisque je suis en train de manger une terrine qui a été concoctée par Yann Diologent, qui nous accueille ici, en sourire au pied de l'échelle. Et j'ai dans mon verre un vin blanc qui est fait en Île-de-France. Mais on reparlera de tout ça. On va d'abord commencer avec Fabrice Tessier, qui, une fois n'est pas coutume, va commencer entamer cette émission avec sa chronique et nous faire un petit rappel historique.
Alors, lors de ma dernière chronique, je me suis baladé au 22e siècle dans le vignoble du Muscadet, pour ceux qui se souviennent. Je vous précise d'ailleurs que l'émission est d'ailleurs toujours disponible en podcast sur le site des Coudes sur la Table. Mais aujourd'hui, on va commencer par remonter dans le temps et partir au 18e siècle. À cette époque, le plus important vignoble de l'Hexagone se trouvait celui de l'Île-de-France. Rendez-vous compte, 42 000 hectares de vignes. Un peu plus tard, en 1820, on en compte encore 24 000. Pour vous situer, la Bourgogne aujourd'hui compte 29 000 hectares de vignes. 29 841, je crois, pour être très précis. C'est vous dire la place qu'occupait ce vignoble donc il y a encore deux siècles. Alors, en revanche, contrairement à ce qui s'est passé un peu partout en France, ce n'est pas le phylloxéra qui a fait disparaître les vignes d'Île-de-France, mais c'est surtout l'industrialisation et particulièrement les lotissements de la petite couronne qui ont petit à petit grignoté les coteaux. Le coup de grâce, il a été donné par le chemin de fer qui a permis au vin du Languedoc, vendu à très bas prix, d'arriver dans la capitale. C'en était fini, quasiment fini, du vignoble de l'Île-de-France. Alors que reste-t-il de cet héritage ? Eh bien, je me suis rendu dimanche dernier au Salon de l'Agriculture afin de savoir s'il existait encore des traces de ce vignoble auprès du grand public. De vin pas très loin d'ici. Est-ce que c'est du vin de l'Île-de-France ?
Bien sûr que non. On ne fait pas de vin en Île-de-France.
Ah, les vignerons en Île-de-France ? Bah, je savais qu'il y a des vignes à Montmartre, mais c'est tout quoi.
Non, je ne savais pas, à part les vignes de Montmartre. Je ne savais pas qu'on faisait du vin en Île-de-France. Où ça, dans quelle région ?
Non, je ne savais pas qu'il y avait des vins d'Île-de-France en particulier.
Non, jamais. Jamais l'occasion. Les vins corses sont très bons, je bois que les vins corses.
Pas du tout. À part le vin de Montmartre, je ne savais pas, non.
Non, je ne pense pas. Je ne connais pas du tout les vins de l'Île-de-France, non.
Non. On essaie surtout le nôtre, vu qu'on est de notre région, on préfère boire le nôtre. On fait plus confiance au nôtre. Après, on ne dit pas qu'ils sont mauvais. On ne dit pas qu'ils sont mauvais.
Et est-ce que vous aviez conscience qu'on faisait des vins sur l'Île-de-France ?
Heureusement, on le sait, il y a des très beaux vignobles sur l'Île-de-France. Bon, mais les plus beaux sont chez nous et les meilleurs sont chez nous quand même.
C'est où chez vous ?
La Corse.
Île-de-France, il y a des vins en Île-de-France. À part la butte Montmartre, je connais pas.
Parce que pour vous, si on fait du vin en Île-de-France, c'est pas du vrai vin ?
Il est trop pollué pour moi. Trop de pollution dans le vin d'Île-de-France.
Est-ce que vous pensez que ça peut être bon ?
Oui, je pense. Si c'est bien entretenu, si les produits... Sont cultivés avec qualité par les artisans, je pense que ça doit être bon.
Il y a du vin en Île-de-France ?
Alors si, je connaissais le petit vignoble de Montmartre.
Pas du tout, et d'ailleurs je suis passé devant le stand il y a un quart d'heure. J'ai découvert qu'effectivement en Île-de-France il y avait une production viticole, mais je ne me suis pas arrêté.
Pour vous, est-ce qu'on peut faire des vins intéressants dans cette région ?
Ah bah j'espère. Moi j'habite en Île-de-France et j'espère que les viticulteurs sont efficaces.
On le voit bien, au-delà de Montmartre, il semble qu'il n'y ait pas grand-chose à se mettre sous la dent dans la capitale. Et pourtant, depuis quelques années, on replante des vignes. Dans le 15e, il y a celle du parc Georges Brassens. On a replanté en 83 du Pinot Noir et du Pinot Meunier. Dans le 12e, les vignes de Bercy, au lieu du vin s'il en est à Paris, où 350 pieds de Sauvignon et Chardonnay s'en donnent aujourd'hui à cœur joie. Depuis 92, du côté du parc de Belleville, dans le 20e cette fois, on fait également pousser du Pinot Meunier et du Chardonnay. Non loin de là, dans le 19e, vous avez les charmantes vignes de la butte bergère, où l'on a reconstitué un vignoble en coteaux en 95 avec Sauvignon, Chardonnay, Muscat, Chasselas et Pinot Noir qui produisent environ 150 kg de raisins chaque année. Tous ces exemples, ce sont des vignes municipales, qui s'inscrivent souvent dans des projets pédagogiques, mais on trouve également quelques initiatives privées. Dans le très chic 16e, par exemple, en bordure du Bois de Boulogne, il y a les vignes de Paris-Bagatelle, où 400 pieds ont été plantés il y a une dizaine d'années. J'en profite d'ailleurs, si vous avez un hôtel particulier du côté de l'île Saint-Louis, je suis tout à fait disposé, moyennement un logement sur place, à m'occuper de vos vignes. Vous pourrez obtenir mes coordonnées en appelant Radio Campus Paris, ça va sans dire. Alors, des exemples parisiens, il y en a quelques autres, mais la capitale n'a pas le monopole de la viticulture en Île-de-France. Et les initiatives sont nombreuses dans les départements limitrophes, comme a pu me le préciser notre invité Emmanuel Montaud, dimanche dernier, porte de Versailles.
Vous avez dans le 95, par exemple, le nord-ouest de Paris, Taverny, Argenteuil, Pontoise. Vous avez Suresnes également dans le 92. On a également dans le 93, on tourne toujours autour de Paris, hein, 93, vous avez Épinay-sur-Seine, vous avez Villepinte. On a dans le 77. Alors 77, ça va être Aulnay, par exemple, Bois, Villepinte, Rosny-sous-Bois. 77, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le 77? Je crois qu'à Villeparisis également, il y a une petite vigne dont on s'occupe. Enfin voilà. Après, on a le Saint-Fargeau-Pontiry, on va un petit peu plus vers l'est de Paris. On sort un petit peu justement de l'ouest de Paris pour retrouver dans l'est également de la vigne. Enfin voilà, plein de petites vignes comme ça qui se sont greffées autour de Paris, sur lesquelles les villes et en tout cas les communes veulent implanter des vignobles.
Et c'est précisément en Seine-et-Marne, non loin de Provins, que Patrick Boudinien va replanter de la vigne d'ici 2 ans. Pour lui, il s'agit d'un véritable projet professionnel, une diversification dans son exploitation agricole et un retour aux sources dans une région où la viticulture est simplement en sommeil aujourd'hui.
Dans cette région, il y avait un marchand de vin, il y avait 38 hectares de vignes, c'était vinifié sur place, il y a encore plein de pressoirs qui dorment dans les granges. Voilà, donc on peut dire qu'il y a effectivement des traces viticoles. Beaucoup de parcelles portent le nom de vieille Bourgogne, ancienne vigne, vieille vigne. Voilà, la toponymie est là pour nous le rappeler. Finalement, on se rapproche simplement de ce qu'ont fait nos aïeux et on aimerait bien voir local maintenant. Les dernières vignes sur cette commune ont été arrachées dans les années 70 à peu près, 60. Ouais. Et donc finalement, on ne réinvente rien. On est vraiment sur des territoires un peu argilo-calcaires, à silex. Finalement, on a fait du blé, du maïs assez curieusement pendant 40 ans. Moi, j'ai l'objectif de replanter 8 hectares.
Donc vous travaillez en plus pour les générations futures si vous plantez de la vigne là.
Évidemment. On travaille un peu pour l'éternité, c'est effectivement l'esprit du vin. Oui, effectivement, on a des jeunes qui nous suivent derrière, qui sont en attente. C'est un peu à nous de jeter les prémices et finalement d'arriver à rationaliser un petit peu un début de production. Mais notre souhait, évidemment, c'est d'avoir des tas de jeunes qui reprennent derrière nous cette activité.
Donc on se retrouve en 2021-2022 pour le premier millésime chez vous?
Ah, je pense qu'on peut prendre rendez-vous pour 2022. Là, on sera sûr d'avoir les premières cuvées. On vous invitera joyeusement à venir les fêter avec nous.
Rendez-vous est donc pris en 2022 pour un enregistrement des Coutes sur la table dans le chai de Patrick Boudinia du côté de Melz-sur-Seine.
Merci beaucoup Fabrice pour cette super chronique qui nous a donné un bel aperçu et c'est vraiment une belle entrée en matière. Alors je me tourne vers Patrice Bersac, reprenez le micro. Qu'est-ce que ça vous évoque tout ça? Par exemple le micro-trottoir que vous avez écouté et la réaction des badauds quand on les interroge sur le vignoble d'Île-de-France.
Alors ce micro-trottoir me fait quand même un peu de peine parce que depuis plus de 20 ans que nous nous battons pour faire renaître cette viticulture francilienne avec l'aide des vignes patrimoniales, ce que je constate, c'est qu'il y a encore un manque d'information, manque de communication, malgré les centaines d'articles qui ont été publiés dans Le Parisien, par exemple, même dans des revues professionnelles. On trouve cela dans La Vigne, on en parle. Donc j'ai un peu de peine de voir qu'on n'est pas encore assez connu, mais avec une indication géographique protégée qui, je l'espère, va arriver en 2007.
2017.
Les choses devraient changer puisque maintenant nous avons enfin le droit de pouvoir planter des vignes professionnelles et de pouvoir vendre ce vin.
Alors on reviendra sur cette indication géographique protégée, IGP donc. D'abord j'aimerais qu'on s'intéresse simplement à Paris intramuros. Combien existe-t-il de vignes à Paris intramuros dont on vinifie vraiment les raisins pour en faire des vins?
Alors d'abord il y a les vignes de Paris. Bien sûr, les grandes que l'on connaît, mais il y a aussi des petites vignes de un pied à quelques pieds. Et les élèves du PTSA technico-commercial vin et spiritueux de l'Institut de formation supérieure Clorivière font un inventaire.
Où vous enseignez, je précise, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Oui, j'enseigne à ces élèves et ils font un inventaire. Et actuellement, on est près de la centaine de vignes.
D'accord.
Maintenant, toutes ne vinifient pas. Certaines font des petites fêtes ou s'amusent avec. Il y a à peu près une quinzaine où l'on vinifie. Et par exemple, de manière très amusante, Impasse Villa Auguste Blanqui. Mmh. Il y a quelques cadres, des ingénieurs arts et métiers en particulier, qui vinifient pour l'un un cépage très ancien, qui est le Pélourcin, et pour l'autre, un cépage bien connu, qui est le Chasselas. Et tous les deux arrivent à faire un vin sympathique et c'est très très amusant de déguster leur vin. C'est une cuvée assez originale, mais c'est bien fait, c'est bon.
Mais quand on parle de vin sympathique, c'est pas un peu dégradant, Patrice Bersac, pardon?
On peut utiliser des qualificatifs pour indiquer le plaisir que l'on a à se retrouver en société pour les boire. Mais quand je dis un vin sympathique, c'est-à-dire c'est un vin qui n'a pas de défaut déjà. Et ensuite, c'est un vin qui présente des qualités tout à fait honorables, que l'on pourrait dire qualité vin de table, voire parfois un petit peu plus. Ce sont des vins qui ont des notes fruitées, qui ont un bon nez. Donc, ce sont de bons vins.
Et alors, vous parliez, vous évoquiez, sans les nommer, les grands vignobles parisiens. Est-ce que vous pouvez les énumérer et nous en parler brièvement ?
Alors, les grands vignobles parisiens, bien sûr, je passe sur Montmartre mondialement connu, qui, hélas, est tellement brillant qu'il fait de l'ombre à tous les autres. Et c'est bien dommage parce que les autres aussi méritent d'être connus. Par exemple, le vignoble de Bercy.
Alors, je vous interromps. Qu'est-ce que vous pensez des vins de Montmartre, par exemple ?
Alors, j'ai dégusté les vins de Montmartre à l'époque d'un œnologue qui précédait l'œnologue actuel. J'avais trouvé que pour certains vins rouges, c'était la qualité vin de table, sans excentricité. C'était un vin qui était buvable. Mais il avait réussi à faire quelques petites expériences, bon, non sans tout l'art de l'œnologue, hein, quelques expériences de vin, notamment un rosé, qui était assez, que j'ai trouvé très agréable, même amusant à boire.
Emmanuel Manteau, vous vouliez peut-être réagir, non ?
Ah non, je trouvais ça très bien, les remarques de Patrice. Juste peut-être par rapport, en effet, au fait que les vins franciliens ont eu du mal, c'est vrai, à se faire connaître ou à se faire entendre. Mais notre démarche au début, bon, on était un petit peu sur un fil. Je dirais, Patrice en a parlé, c'est vrai que toute la partie administrative, ou en tout cas les réglementations autour des vins sont très compliquées. Donc même si les collectivités s'initiaient dans cette renaissance des vignobles franciliens, nous étions assez discrets sur le vin et sur l'alcool, en effet, qui était produit autour de ces vignes.
Alors Patrice, je vous laisse continuer. Vous alliez nous parler de Bercy, des vignes de Bercy.
Alors les vignes de Bercy, qui, comme les vignes municipales, sont en train de faire leur conversion, c'est-à-dire qu'ils abandonnent les cépages classiques, les cépages traditionnels. Ils abandonnent le Chardonnay, ils abandonnent le Sauvignon, ils abandonnent le Pinot pour passer au cépage Piwi. Donc ce sont des cépages résistants aux maladies, principalement l'odium et le mildiou.
Alors oui, vous pouvez, le Piwi, c'est un acronyme un peu barbare
Alors Piwi, ben justement, nous avons la chance pour une fois d'avoir un acronyme qui n'est pas du tout globiche. Hein, c'est un acronyme allemand qui veut dire Pilz Widerstandsfähige, c'est-à-dire champignon totalement résistant aux maladies telles que l'odium et le mildiou.
Donc on ne parle jamais d'organismes génétiquement modifiés.
Non, alors en Piwi, il n'est pas question d'avoir des organismes génétiquement modifiés. Nous ne voulons pas jouer aux apprentis sorciers. Nous considérons que la nature qui a fait ce travail-là au bout de quelques millions d'années a encore plein de surprises et plein de merveilles à nous offrir. Il suffit simplement de faire de la reproduction sexuée et ça marche très très bien. On a des cépages tels que le Solaris, le Muscaris, le Joanniter par exemple, ou des cépages récents comme des Italiens, comme le Flortaille, qui donnent des vins pleins de charme.
Alors, je l'évoquais tout à l'heure, vous avez commencé à vinifier en 1993. Qu'en est-il de votre vigne rue de Reuilly ?
Alors, j'ai vinifié de 93 jusqu'à 99 et ensuite, j'ai participé donc avec quelques amis à la création de l'Association des vignerons franciliens réunis. Et la charge est devenue tellement importante avec des demandes qui se sont multipliées que j'ai dû abandonner la vinification au 18 de Reuilly à regret. Mais dans le fond, j'ai gagné des dizaines d'autres vignes dans lesquelles j'ai pu aider les amateurs à progresser, à avoir de belles vignes, puis avoir ensuite des chais équipés de manière professionnelle. Et pour certains d'entre eux, à faire de très bons vins que nous présentons au Salon de la Culture. Et cette année, c'était la 13e fois que nous y étions.
Alors, je vais redonner la parole à Emmanuel Manteau. Vous êtes vraiment les pieds et les mains les pieds dans la terre, les mains dans la vigne, ou les pieds dans le bitume pour quand on vinifie à Paris, non ?
Oui, je vous entendais parler aussi d'un petit peu de pollution, tout ça sur Paris, ou du moins les personnes qui ont répondu un petit peu aux remarques et aux interviews. C'est vrai qu'à Paris, bon, il y a le problème en effet de la pollution, mais aujourd'hui, heureusement, tout le monde réfléchit à son environnement et puis au bien-être de chacun. Donc je pense qu'en effet, la pollution est de plus en plus réduite. Il s'avère que aussi la pollution existe même en dehors de Paris, hein. Et même dans les champs, hein, on peut rencontrer la pollution. Dès qu'on sort de Paris, on est dedans aussi. Les traitements existent également dans les grandes cultures.
céréalières, également dans la vigne. Hein. On reproche à la vigne d'être le premier pollueur aussi, avec tous les intrants phyto qui existent en chimie de synthèse. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de produits ont été annulés, voire complètement retirés du marché. Et de plus en plus de vignerons réfléchissent aujourd'hui, en effet, à aussi bien se protéger, hein, parce que quand on est en train de traiter, nous sommes les premiers à subir en effet les traitements. Et puis bien sûr, notre environnement, nos enfants et bien sûr tout le monde qui pourrait être amené à déguster également un vin, puisque le problème de ces produits-là, on les retrouve également dans le liquide.
Patrice Bersac, vous voulez réagir brièvement ?
Oui, je pense qu'il est bon que les Franciliens sachent que les vins de Paris, que j'ai fait analyser en 1997 et 1998 par le laboratoire de la répression des fraudes, des vins que je faisais donc rue de Reuilly et du vin de Montmartre, sont des vins dans lesquels les niveaux de pollution sont très, très inférieurs au niveau réglementaire. Et ça, ça a été une grande surprise, parce que grâce à cette analyse, nous avons pu prouver que les vins produits dans une zone urbaine telle que Paris ne sont pas pollués.
Patrice Bersac, encore un dernier mot, je voudrais redonner la parole à Emmanuel Montaud.
Alors, la pollution par les produits qui sont utilisés pour le traitement des végétaux, les végétaux qui servent à notre alimentation, c'est un vrai problème. On commence maintenant à prendre des mesures assez vigoureuses pour réduire ces traitements. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en Île-de-France, nous démarrons une nouvelle viticulture et nous faisons une promotion très forte pour l'emploi de ces cépages qui sont résistants aux maladies, de telle façon qu'on n'est pas à traiter. À titre d'exemple, dans Paris, j'ai planté deux vignes, une à Clorivière, l'autre à Albert-Demain, donc deux établissements où j'enseigne. Ce sont des vignes de cépage Piwi, et je peux vous dire que l'an dernier, par exemple, je n'ai fait absolument aucun traitement, rien de rien, et j'ai obtenu de très beaux raisins.
Pas de bouillie bordelaise.
Non, même pas de bouillie bordelaise, même pas de soufre, je n'ai rien fait. Et les vignes ont résisté au mildiou, elles ont résisté à l'oïdium, alors que les autres étaient atteintes, et il y avait de très beaux et bons raisins.
Donc vous êtes un vigneron naturel, alors, presque.
Ah ben moi, je suis, depuis ma jeunesse, amateur de ce qui est bio, de ce qui est nature, et surtout du grand respect qu'on doit à la nature qui est si merveilleuse.
Alors, vous nous parliez de dégustation tout à l'heure, Emmanuel Montaud. On déguste justement un vin dont l'étiquette est assez rustique, on peut le dire. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce vin qui est assez étonnant par ailleurs? Il s'appelle le Sitangué et je ne connais absolument rien de son histoire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on boit ici?
Alors, c'est vrai que nous avons commencé avec le Sitangué, qui est un vin élevé en cuve sur Liffine, qui est à base de Chardonnay. C'est un bon vin, en tout cas, assez équilibré. C'est un petit peu tendu, comme les vins du Chablisien, on va dire. On n'a pas non plus les caractéristiques qu'on retrouve en Bourgogne avec ses élevages en barrique, hein, puisque là, nous sommes uniquement en élevage en cuve. Alors, cette vigne de Saint-Fargeau-Pontiry, hein, le Sitangué, donc, c'est un lieu-dit, hein, qui est donc 730 pieds, planté...
On est dans 77. Donc,
voilà, dans 77, en Seine-et-Marne. Donc c'est du chardonnay sur plusieurs numéros de clones. Hein. Nous avons voulu jouer dans la variété, sur la typicité, en choisissant des clones différents. Puisque bon, dans la vigne aujourd'hui, la sélection est faite par l'INRA et par la Chambre d'agriculture et revendue par la Chambre d'agriculture. Donc c'est vrai que nous avons une sélection correcte de cépages et de clones à l'intérieur de variétés, de clones à l'intérieur de la variété. Malgré tout, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelques vignerons aujourd'hui qui font encore des efforts de sélection massale, de sélection sur leurs propres vieux pieds, pour essayer de justement de sortir un petit peu des sentiers et des ventes de la Chambre d'agriculture et avoir des cépages, donc des clones un petit peu différents.
Oui, on oppose clones et sélection massale souvent. Oui.
Donc ça, nous l'avons fait ici, en tout cas à Saint-Fargeau, pour en moins avoir ce squelette, ce fruité et ce floral. Voilà, en jouant sur les trois clones, nous pouvons avoir un vin... tout à fait, en tout cas, organoleptiquement intéressant.
Alors, Fabrice Tessier me soufflait une question tout à l'heure. C'est ça que tu voulais demander
si... Non, là, je voulais rebondir un petit peu sur le vin qu'on goûte tous actuellement. Moi, je suis assez impressionné parce que on est sur un chardonnay, c'est absolument pas variétal. On est déjà sur des notes d'évolution qui sont très intéressantes. Et on est sur un vrai vin de caractère. On n'est pas sur un chardonnay, comme il en existe beaucoup trop un peu partout en France et dans le monde, qui ressemble à un chardonnay. Là, on a quelque chose en plus et c'est particulièrement intéressant.
C'est vrai qu'il a un petit peu évolué, hein, c'est à 2011. Donc déjà quelques années derrière, donc une conservation quand même correcte, hein, sans déviation en tout cas et sans altération. C'est vrai qu'il garde encore sa fraîcheur. Ce sont des vins qui sont donc élaborés à base de levure indigène, donc très peu de sulfite. Nous essayons en effet
donc
de...
Donc à la vigne, parce que Patrice nous disait tout pas à l'heure, sulfite. Je ne mets rien, mais à la vigne, vous ne mettez rien non plus.
On parle de sulfate à la vigne, et on parle de sulfite dans le vin.
Oui, mais je voudrais commencer, avant de parler de la vinification, je voudrais qu'on commence d'abord le parcours à la vigne.
D'accord, donc on change de la dégustation et on repart un petit peu à la vigne, faire notre petit tour.
C'est-à-dire qu'on part de cette dégustation pour revenir à la vigne et pour réarriver à la mise en bouteille.
D'accord. Bon, bah, la vigne, oui, c'est une vigne qui est donc... les méthodes culturales sont proches, ou en tout cas le plus proche possible, de celles de l'agriculture biologique, même si nous n'avons pas la certification aujourd'hui, puisque nous ne la demandons pas, puisqu'il n'y a pas de voie économique en soi, hein, et de marché en soi. Après, nous faisons des efforts également même dans la réflexion autour de ces produits autorisés en agriculture biologique, puisque nous essayons même de diminuer les quantités de produits qu'on peut apporter hein, en agriculture biologique, à la fois donc, le cuivre qui est un polluant quand même, hein, à forte dose, qui est donc du cuivre métal, qui est un métal lourd. Donc nous évitons en effet d'en apporter de trop rendre la vigne bleue.
C'est la couleur du mélange que de la bouillie bordelaise.
Tout à fait, et ça arrive des fois qu'on voit dans certaines vignes en effet des piquets bien bleus et parfois un peu des vignes bien bleues. Mais voilà, donc en tout cas, nous raisonnons aussi bien la quantité de produits que les produits en effet que nous apportons à la vigne.
Et donc on passe maintenant à la vinification. Vous disiez travailler sans intrants.
Voilà, alors c'est vrai qu'on essaie d'éviter en tout cas tout ce qui est produits chimiques ou produits de laboratoire. On essaie de partir le plus naturellement possible sur ces vins. Et même au niveau de l'élevage, on essaie également d'avoir du froid pour éviter en effet de rajouter différents produits, par exemple pour les précipitations, les extractions, enfin bon, ce genre de choses.
Voilà, là on rentre un peu dans la technique, dans les détails techniques, œnologiques.
Mais voilà, on utilise en effet des procédés qui nous permettent d'éviter d'utiliser ce genre de produits.
Et alors, vous travaillez où en Île-de-France ? Est-ce qu'il y a une multitude de chais ? Est-ce qu'il y a une grande coopérative dans laquelle on vinifie tout ? Comment ça se passe ?
Alors c'est vrai que c'est bon, la plupart des vignes aujourd'hui, bon là c'est vrai qu'on part sur des vignes professionnelles, mais jusqu'à maintenant ce sont les collectivités et conseils généraux qui se sont initiés dans le projet et qui ont donc fait renaître un petit peu par l'intermédiaire des élus et puis de la volonté aussi de la population et puis d'adhérents également, ces vignobles. Ils nous ont donc contactés hein, pour avoir des renseignements à la fois techniques, pour qu'on puisse les accompagner dans cette démarche dans un premier temps. Donc voilà, les propriétaires aujourd'hui, quoi, au tout début en tout cas, étaient plus... voilà, c'était des vins patrimoniaux qui appartenaient, le terrain appartenait à la collectivité, les espaces verts participaient, ou les personnes de technique, en tout cas de la ville, du service public, hein, qui travaillent, je précise qu'ils travaillent bien, participaient à l'élaboration, au suivi de la vigne, puis également à l'élaboration du vin, hein, puisque ça fait partie des conseils que nous procurons, entre autres aux collectivités. Voilà, donc nous avons accompagné pendant une dizaine d'années les collectivités avant de, aujourd'hui, avant d'aujourd'hui, peut-être voir en effet l'IGP sortir et la professionnalisation des vins arriver sur le marché.
Alors l'IGP, la transition est toute faite. Patrice, parlez-nous brièvement de cette IGP.
Alors l'IGP, indication juridique protégée, il faut savoir que c'est un long combat, c'est un long chemin à parcourir. Nous avons commencé à rédiger le cahier des charges de l'IGP qui portera vraisemblablement le nom de IGP Île-de-France en 2008. Et ce n'est qu'en 2012 que j'ai obtenu l'accord et le soutien de la Confédération française des vins à IGP. Et à partir de ce moment-là, on a déposé le dossier à l'Institut national des appellations d'origine, l'INAO. Et chance, je pense, c'est assez amusant, c'est le 22 janvier 2014, donc jour de la Saint-Vincent, hein, patron des vignerons, que le comité national des IGP 20 s'est réuni et a accepté d'examiner notre cahier des charges. Donc ça a été une première victoire. Ensuite, une commission d'enquête nommée par l'INAO est venue, elle a visité des vignes, elle a dégusté des vins, et elle a approuvé le travail qui était fait. Et ensuite, nous avons donc procédé à des évolutions de ce cahier des charges en fonction de ce que la commission d'enquête nous a dit. Nous avons ensuite mis au point tout ce que l'INAO nous demandait. En particulier, nous avons créé un syndicat professionnel, le syndicat des vignerons d'Île-de-France, en abrégé CIVIF, qui est en somme né à partir des vignerons franciliens réunis. Hein. C'est très amusant. En somme, le père ou la mère de tout ça, c'est les vignerons franciliens réunis avec nos vignes patrimoniales. On arrive au premier syndicat professionnel, donc le CIVIF. Et dans la foulée, en même temps, nous créons le syndicat des vignerons du Nord-Ouest, puisque à partir du 1er janvier 2016, c'est tout le quart nord-ouest de la France, c'est-à-dire de la Bretagne aux Ardennes, qui devient plantable. Enfin, nous avons la liberté de pouvoir planter, alors que nous avions eu plus de 20 ans d'interdiction de planter. On est toujours presque hors la loi.
Après Ella Fitzgerald et Count Basie, on retourne à Paris et j'accueille à nouveau Yann Yolojan, donc maître des lieux de cette cave, le sourire au pied de l'échelle, il faut se rappeler du nom. Un roman de Henry Miller, c'est ça ? Bon, j'étale un peu ma culture, c'est ça ?
Culture.
On a parlé de Paris, on a parlé un peu d'Île-de-France, on va y revenir tout à l'heure, très brièvement, car l'émission... Le temps file. Yann, toi, tu vas nous parler de Champagne et de l'Île-de-France. On peut être champenois et avoir des parcelles en Île-de-France.
En effet, c'est bon à savoir. Quelques terres situées à l'ouest de la vallée de la Marne, dans le département de la Seine-et-Marne, peuvent produire des raisins sur l'aire d'appellation Champagne. L'Île-de-France produit donc des champagnes. Il s'agit plus précisément de 3 communes, d'une surface totale en production de 105 hectares. C'est pas mal.
C'est pas mal.
3 communes, Citry, Nanteuil-sur-Marne, Sassy.
Très bien, on va rester donc à ces 3 communes. Yann, je te laisse
continuer. Quelques vignerons, à Citry, donc Laurent Braillet, à Nanteuil-sur-Marne, le domaine Gracio de Lugy, le domaine Burger-André, à Sassy-sur-Marne, le champagne du domaine Bourgeois, et le domaine Bompard-Hervé. Ce monsieur du domaine Bompard-Hervé rappelle sur son site qu'il est à 80 km de Paris. Ça veut dire que, sans embouteillage, c'est à moins d'une heure de Paris en voiture. Et ça peut être une destination pour un dimanche, balade en vallée de la Marne, culturelle. Comment fait-on du champagne ? Est-ce qu'on peut améliorer notre connaissance ?
Un petit week-end thématique que tu nous proposes là.
Un domaine a retenu mon attention, puisque nous avons eu le plaisir de le découvrir ici au Sourire au pied de l'échelle. Une cuvée nommée Entre ciel et terre du domaine Françoise Bédel et fils.
Magnifique.
C'est un domaine familial situé à Croûte-sur-Marne, mais ce n'est pas en Île-de-France, vous allez me dire. Mais oui, à Nanteuil-sur-Marne, il cultive une belle grosse parcelle argileuse qui donne des vins super. Alors le domaine Françoise Bédel est arrivé et reprend une partie du domaine en 1979. Vincent arrive sur le domaine en 2003. Il cultive aujourd'hui 8 hectares 40 de vignes, âgées de 30 à 60 ans. Françoise et Vincent veulent faire des vins de terroir. Ils disent, eux, qu'ils savent avoir le goût de là où ils viennent. Une démarche qui emploie des méthodes biodynamistes pour cultiver des raisins de Pinot Meunier, de Pinot Noir. C'est le cas de cette cuvée entre ciel et terre. Pinot Meunier, Pinot Noir, donc un vin de blanc de noir. Le domaine Bedel est certifié par l'organisme écossaire depuis 1999. Et donc faire plonger les racines dans le sol pour que la plante se nourrisse plus en profondeur avec des minéraux qui se retrouveront dans les baies afin de faire du vin, c'est une des clés des vins de sol. J'ai trouvé cette cuvée, moi, entre ciel et terre, tout à fait enthousiasmante et reflète complètement le travail dont nous venons de parler. Le nez est puissant et laisse deviner un sol froid. Quelques notes oxydatives, une sensation allant du crémeux à la crème tiède au beurre noisette, un style assez masculin se dirigeant vers des sensations musquées. En bouche, la bulle est onctueuse et laisse place à des arômes de cerise. Le champagne est vineux, la matière est dense et a de l'allonge. L'accord avec un fromage du type Chaours fonctionnerait très bien, mais aussi un vieux fromage comme un Morbier Fermier. Je n'aurais pas peur de cuisiner, par exemple, des Saint-Jacques flambés au whisky terreux d'Ailey, et d'inviter à partager, pourquoi pas, une amie. Tout ça s'annoncerait un très bon moment. Je mettrai en ligne les informations sur le blog des Marcheurs de Planète. Merci Louis.
Ben, merci Yann. Et alors, je pensais, les vignerons champenois, justement, est-ce que ce ne serait pas le problème quand on fait des vins en Ile-de-France, c'est qu'il y a les champenois à côté, on fait 10 km de plus et on va en Champagne. Est-ce que ce n'est pas ça la première concurrence, Patrice Bersac?
Alors oui, nos amis champenois sont des voisins qui n'apprécient pas trop la naissance d'un petit bébé à côté d'eux. Et donc les choses commencent à s'améliorer, les relations se font et nous sommes sur le point d'avoir dans les prochains jours une rencontre au sommet, c'est-à-dire avec le président du syndicat général des vignerons de Champagne, le président de l'Union des maisons de Champagne, pour discuter très sérieusement et trouver un accord pour que nous ayons chacun notre territoire bien délimité, que le bassin de Champagne, le bassin viticole soit bien délimité, et ceci pour répondre aussi aux incitations très fortes du ministère de l'Agriculture qui veut que l'on cesse de se regarder en chaîne de faïence, mais que l'on se regarde comme de bons voisins et un jour, je l'espère, comme de bons amis, puisque nous allons faire des vins tranquilles et ils continueront à faire leurs vins merveilleux.
Ah, j'ai cru entendre autre chose. Emmanuel Manteau, on s'est servi donc de cette deuxième cuvée, le Parc du Saussé. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement après notre Sitanguet qui a séduit Fabrice et d'autres autour de cette table?
Alors là, nous sommes en train de déguster aussi pareil un chardonnay sur plusieurs numéros de clones, comme je vous l'ai indiqué, pour jouer également sur la petite piscine. Alors là, nous sommes du côté de Villepinte, au parc du Saussé, qui est un parc protégé aujourd'hui, où il y a des relevés d'espèces, de faune, de flore, enfin bon, et la vigne qui est venue en plus de ça, accompagner tout ça. Donc ce sont deux cépages qui ont été implantés là-bas, le Pinot Noir et le Chardonnay majoritairement. Après, nous avons un petit peu de Baco, pour à titre démonstratif. Et puis, dans le cadre de...
Vieux cépages solides.
Voilà, vieux cépages endémiques également de la région, qu'on retrouve énormément ici sur la région parisienne.
Celui du Château-Mélac dont je parlais dans l'introduction, par ailleurs.
Oui, puisque c'était des cépages, entre autres, qui étaient beaucoup moins sensibles à la maladie, qui permettaient chaque année d'avoir du raisin, à défaut du Chardonnay, qui lui demande beaucoup de suivi et d'entretien, qui est un cépage assez fragile et sensible, en tout cas, aux maladies et aux attaques extérieures de champignons ou d'insectes ou de virus même dans le bois.
Et là encore, il y a une quête biodynamiste.
Là encore, en effet, sur la vigne, nous protégeons l'environnement. Nous sommes dans le cadre du développement durable par rapport aux collectivités territoriales et conseils généraux. Donc, tout ce qui est aujourd'hui, en tout cas, intrant, les villes essaient aujourd'hui d'éliminer ces produits-là. Donc, nous, la première chose qu'on va faire également à la vigne, c'est de ne pas les rentrer non plus. Donc ça reste des produits naturels, des dynamisants à base de terpènes d'orange, quelques dynamisants également à base de purin, d'ortie, de lierre, voilà, de consoude également. Et puis nous utilisons bien sûr la bouillie bordelaise, mais à dose raisonnée, et puis le soufre le, voilà, également.
Pour ne pas avoir de vigne bleue, on l'a bien compris. Alors ces vins-là, je m'adresse à notre troisième invité que j'ai fait patienter jusqu'à la toute fin de l'émission, Jean-Luc Bretin, ces vins-là, on pourrait les retrouver dans votre application Raisin, puisqu'en fait, là, on se rend compte qu'on a des vins d'Île-de-France qui sont faits selon la mouvance naturelle, puisqu'il n'y a pas de cahier des charges véridique, on peut les mettre dans la grande famille des vins naturels.
C'est des choses qu'on pourrait envisager. Nous, la chose sur laquelle on s'appuie, c'est que généralement, on est sur des certifications en biologique et ou en biodynamique. Et on intègre des vignerons à notre index qui sont souvent des vignerons qui font au minimum 30% de cuvées avec du raisin et parfois un peu de soufre. Donc on accompagne, l'idée c'est de fédérer et d'avoir un espèce de mouvement comme ça qui soit puissant et qui s'inscrive dans la durée. Et on essaie de rassembler comme ça le maximum de vignerons qui travaillent de cette manière-là.
D'autant plus que c'est une application collaborative, comme je le disais. Donc, moi, si j'ai envie de rajouter ce parc du Saussé ou ce Sitanguet dans votre application, je peux le faire ?
Alors, vous pouvez. Nous, on punit personne.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. On fait toujours des modérations a posteriori. C'est-à-dire que quand les gens viennent à poster des choses qu'on ne connaît pas, eh bien, on vient à se renseigner sur l'origine du vin, la façon dont il a été fait. Et quand on n'a pas de réponse à ces questions-là, eh bien, on se rapproche du vigneron et on essaie d'en savoir un peu plus sur la manière dont il vient à travailler.
Voilà. Bon, là, donc, vous savez presque tout. Vous pourrez interroger Emmanuel Manteau sur la vinification, les taux de soufre à la mise en bouteille, etc.
Hélas, nos vins ne sont pas à vendre.
Ah, vos vins ne sont pas à vendre. Bon, ben, dommage, parce qu'ils nous plaisaient bien.
On peut les partager quand même, s'il ne pose pas de soucis.
Et alors, en début d'émission, vous me précisiez que vous faisiez une campagne de crowdfunding, donc vous rassembliez de l'argent en ce moment. C'est dans quel but ?
Alors aujourd'hui, l'application elle existe depuis un peu moins d'une année. On est uniquement disponible sur iOS, donc pour les possesseurs d'iPhone. On a enregistré 12 000 téléchargements jusqu'à présent. Il faut savoir que c'est une application qui est disponible en français, en anglais et en japonais, parce que c'est un mouvement, le mouvement du vin naturel qui est un mouvement international. Je pense qu'en France, on ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer, mais la majorité de ces vignerons qui font les vins de cette manière-là, c'est-à-dire avec du raisin et parfois un peu de soufre, ils exportent 70% de leur production. C'est-à-dire qu'il reste en France seulement 30% de ce qu'ils viennent à réaliser. Le marché nord-américain est énorme, l'Asie c'est énorme, les pays scandinaves ne consomment que ça. Et alors, le sentiment que ça peut donner, c'est que c'est un mouvement qui est très parcellaire, qui est très fragmenté, mais qui est vraiment massif. Et aujourd'hui, et c'est la chose à laquelle nous, on est confrontés assez souvent, c'est qu'on est en train de chercher des fonds pour pouvoir continuer l'aventure. Et comme on n'est pas sur une distribution de vin classique, c'est-à-dire que du vigneron, on passe par l'agent et ou l'exportateur, et ça, on enchaîne directement chez les cavistes, chez des bars et dans des restaurants. Et en fait, on se rend compte qu'on est sur des circuits très courts. Ce n'est pas des vins qui sont vendus en grande distribution. Donc là, nous, on ne veut pas faire de pub parce que ça ne nous intéresse pas. On essaie d'être autonome, indépendant. Et c'est pour ça que là, on demande aux gens de venir à participer via un crowdfunding qui viendra se mettre en place à la fin du mois pour nous aider à créer une version Android parce que c'est 80% du marché. Et que forcément, nous, ce qui nous intéresse, c'est de permettre à chacun de pouvoir profiter des informations qui sont disponibles.
De toutes ces informations, des personnes qui se baladent. Donc à Tokyo, à Paris,
exactement,
à Milan, je sors mon iPhone ou téléphone technologique, comme dirait mon arrière-grand-père, et je peux trouver un bar, un restaurant ou une cave où on trouve au moins 30% de vin naturel.
C'est ça.
C'est bien ça.
Et en plus, ce qu'il y a de génial, c'est qu'on est vraiment dans le vertueux. C'est-à-dire que les endroits où on peut consommer ce type de vin, c'est des endroits aussi où, quand on va les manger, on est certain que ce sont des produits de saison, des produits de proximité. Donc en fait, la boucle est bouclée. Et c'est ça qui est génial.
La boucle est d'autant plus bouclée que ça me rappelle les marcheurs de planète, cette histoire de vin naturel dans la cave et de cuisine propre en cuisine et dans l'assiette. Merci beaucoup Jean-Luc Bretin pour cette intervention. On n'hésitera pas à vous réinviter lorsque la version Android existera et de vous consacrer peut-être un peu plus de temps puisque on court. D'ailleurs, on court dans les cuisines de Bérangère qui nous a mijoté une petite chronique. et qu'il a fait mijoter longtemps, je crois.
Fouetter.
Des oignons.
Infuser.
Un petit peu de côte de veau.
Mélanger.
Des carottes.
Effeuiller. Les coudes sur la table. L'heure à croquer de Radio Campus Paris.
Ah, la gastronomie parisienne, cette grande dame. Fut un temps, elle était jeune, plutôt aisée et prête à se plier à certaines règles pour assouvir sa gourmandise. Elle était disciplinée et obéissait à son grand-père, Antoine Carême, le cuisinier des rois et le roi des cuisiniers, on disait. C'est comme ça qu'elle connut son apogée au XIXe siècle. Puis à son père, Auguste Escoffier, qui la fit grandir, lui apprit le raffinement, la précision et quelques valeurs qui la suivront toute sa vie. Elle avait un succès fou. On parlait d'elle sur la terre entière, on aurait dit que le monde de la gastronomie tournait autour de sa tour Eiffel. Pardon. Elle faisait dans le très codifié, le classique, traditionnel et bourgeois. Elle avait un petit côté réac, voire conservateur, mais apparemment ça plaisait. Drôle de caractère pour quelqu'un qui prenait le partage et l'épicurisme. Lors de ses soirées, elle aimait rejoindre ses amants au Grand Véfour, chez Maxime ou à la Tour d'Argent, histoire de savourer un canard au sang. Elle traînait au hall, chez les louchers même, les bouchers dans le jargon parisien, et finissait parfois, tard la nuit, chez Denise, à manger une andouillette sur fond de nappe Vichy en s'en jetant un petit. Elle ne jurait que par ses viandes rouges, gibier, poissons, fruits de mer, foie gras et truffes. Elle aimait le luxe, l'abondance et l'opulence. Elle était ronde et fière de l'être. Et oui, à cette époque, personne n'essayait de ressembler à Claudia Schiffer. Peut-être parce qu'elle n'était pas encore née, vous me direz, sans doute. Mais on ne parlait pas de régime minceur en tout cas. Et ça s'enchaînait. Des cafés croissants au bistrot le matin, une entrecôte de Bercy et ses frites, avec un pichet de pinard à la brasserie le midi. Ça buvait du vin comme du petit lait. Le terme bon vivant prenait tout son sens. Puis un jour arrive la crise de la trentaine. Elle sait qu'il faut agir vite pour rester à la page. Par chance, elle devient l'égérie de la campagne Goemio dans les années 70 et défend à présent la tendance de la nouvelle cuisine. Donnez plus d'importance aux produits et moins à la manière de le travailler. Penchez-vous sur la diététique. Cuisinez moins riche que des principes qui lui brisent les dogmes et donnent naissance à une nouvelle façon de faire. Un vrai bol d'air frais pour la période. Une sorte de révolution des papilles qui laisse place à une certaine légèreté, une réelle créativité et une audace assumée de la part des chefs. Elle surfe sur la tendance pendant quelques années, mais le problème de la mode, c'est qu'elle se démode. En effet, à force de rester sur ses acquis, les erreurs et dérives apparaissent. On commence à se plaindre du trop peu dans l'assiette. On est au régime, certes, mais c'est pas une patate, un solilès et un mini-jeu qui vont nous nourrir. Alors oui, c'est joli, le dressage est fabuleux, le produit est français, mais cela ne suffit pas. Dame gastronomie parisienne fait des fautes de goût, des mauvais calculs, des erreurs de casting ou de tenue. Elle traverse alors une longue période de stagnation. On arrête de parler d'elle. On lui souffle même ce qu'il se passe ailleurs. Elle devient un peu une vieille femme, aigrie, qui gave tout le monde de par sa suffisance. Mais c'était sans compter sur la crise de la quarantaine. Et oui, Paris ne se laisse pas abattre comme ça. Portée par ses pairs, enfin prêts à décrocher de leurs anciennes valeurs tradies et un peu sectaires, elle laisse place à de nouvelles visions de la cuisine. On assiste donc à la naissance de la bistronomie, avec Yves Candebord notamment, un mélange de gastronomie avec un grand G et de bistrot, où l'on revisite les classiques, où l'on donne accès enfin à une cuisine raffinée, délicate, à bon prix. Comme par exemple à son comptoir ou à l'avant-comptoir, ou encore à l'Étoile du Nord chez Thierry Marx. Chez les plus jeunes, on peut citer quelques adresses, comme le Servant, le Mensae ou le Flatiron dans le 10e. Puis également toute une nouvelle génération de chefs à la créativité débridée, aux idées progressistes, prêts à redorer le blason de madame, qui ont souvent eu l'ouverture d'esprit de s'inspirer des cuisines du monde, de par leur voyage, et qui ont la volonté de proposer une cuisine signature, qui leur est propre, mais qui est en fait un doux mélange de leurs expériences passées. Je vous recommande de faire un tour chez Yard, Jouvence, Saturne ou au Châteaubriand, vous ne serez pas déçus. On se base dorénavant sur la qualité des produits et leur provenance. Il faut dire que depuis des années, on essaie de diversifier au plus les productions. On assiste à l'apparition de nouveaux aliments comme les mini-pousses qui servent autant de haut-palais qu'au dressage. On ressort les vieux légumes d'antan que l'on avait mis de côté pour les remettre au goût du jour. On se préoccupe enfin de comment ils sont traités. Et oui, malheureusement, même les légumes sont maltraités. On se bat pour les manger pendant leur saison originelle et pas en dehors. Le chef du restaurant Papillon, Christophe Tintagne, nous expliquait lors du salon Omnivore cette semaine qu'il y a une véritable responsabilité du cuisinier face aux producteurs. On assiste à un vrai retour à la France, On assiste à un vrai retour à la terre et à une volonté de s'inscrire dans une économie française. On mise beaucoup plus sur les légumes qu'avant, pour l'aspect financier déjà, mais aussi pour l'équilibre des goûts et pour leurs bienfaits pour la santé. On réinvente une gastronomie du quotidien. Le défi, proposer des produits de grande qualité à des prix abordables. On joue sur des formules du marché, le midi, qui change tous les jours. Beaucoup plus en accord avec notre société d'aujourd'hui que la traditionnelle entrecôte frite, finalement. On remplace les jus de viande montés au beurre par des jus d'herbe ou de légumes même. On troque l'éternelle baguette par des pains faits avec des farines de sarrasin, de son, d'orge ou de seigle. En plus de ça, Paris se redessine une silhouette, se fait un petit lifting, car elle a compris que tout comptait dans sa gastronomie. Du goût au dressage, de la table au décor, elle se refait une petite beauté et l'on découvre des lieux magnifiques où l'on tombe sous le charme avant même d'avoir commandé. Des assiettes dressées de manière originale, où le graphisme et la composition de certaines relèvent de l'art contemporain et nous fait fondre avant la première bouchée. Ce nouveau visage décomplexé attire maintenant beaucoup de chefs étrangers qui s'inscrivent dans le paysage de la gastronomie parisienne. Je pense notamment aux chefs japonais qui sont nombreux à la tête des restaurants très prisés tels que l'Abri, Sola ou encore Dersou, des chefs argentins comme à la Pulperia ou au Biondi, mais aussi des Italiens, Américains, Anglais, Espagnols, ou encore nos amis du Tempero et de son comptoir avec une équipe franco-brésilienne. Un mélange des cultures qui fait un bien fou à la ville, à nos palais et à nos petites têtes parfois un peu étroites. À grands coups de Facebook, d'Instagram, hashtag pornfood, hashtag instafood, hashtag healthyfood, elle devient à la pointe de la technologie pour vivre avec son temps et on assiste ces dernières années à une hypermédiatisation qui la met à nouveau sous les projecteurs, la rajeunit, la cougarise. L'apparition de nouvelles applications permettant de trouver les bons restaurants près de chez soi et même de se faire livrer leurs plats bouscule les codes. On n'arrête plus les concours et émissions de télé permettant aux chefs de franchir les portes de leur cuisine, de montrer un peu de leur humanité, de partager leur expérience, de faire un bon coup de com et d'argent au passage, hein, faut pas se mentir. Et à tous les participants de ces concours de bénéficier très vite d'une couverture confortable pour ouvrir leur restaurant dès leur sortie. Une déferlante de salons spécialisés, de magazines, de bookers, de festivals pointent le bout de leur nez pour le plus grand plaisir de ces nombreux aficionados. Car oui, l'évolution de l'activité fait apparaître un nouveau et nombreux public de passionnés de cuisine. Et cette effervescence, c'est un peu une libération dans ce milieu de réputation plutôt fermée et élitiste. Ça y est, on se prend de rêver d'être cuisinier à 40 ans et c'est maintenant possible. Je dirais donc que Paris a eu ses hauts et ses bas en gastronomie. Après une petite dépression, elle est à nouveau sur ses pattes et en pleine ébullition. Les esprits libres fusent et nous tiennent en haleine. Ça s'enjaille, ça s'encanaille. Et s'il y avait autant d'espoir et d'engouement pour le futur de dame politique que pour celui de dame gastronomie, les Parisiens seraient bien plus sereins.
Merci. Ça s'encanaille, ça change. Ça prend son temps, Bérangère Fagard. On est très en retard. Merci pour cette chronique. Alors, je dis merci à tout le monde. Je dis merci à Emmanuel Monteau, à Patrice Bersac et à Jean-Hugues Bretin en 30 secondes. On n'a malheureusement pas le temps d'épiloguer. En un mot, simplement, pour le futur de Paris et de l'Île-de-France.
Eh bien, ce que l'on souhaite pour le futur parisien, c'est que bientôt on puisse avoir un vin IGP avec la mention géographique complémentaire Paris.
Ce sera le mot de la fin. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine, même radio, même heure. Le mois prochain, pardon, même radio, même heure. Et en attendant, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, le site de la radio, www.radiocampusparis.org. Il y a tous nos podcasts et toutes les informations. Des bisous, à bientôt. Ciao.